Depuis quelques années, on assiste en France et partout dans le monde à une sérieuse remise en cause des habitudes alimentaires. La prise de conscience autour du bien-être animal, de l'épuisement des ressources et de l'impact sur la santé de la viande a transformé chez beaucoup de citoyens le rapport à notre assiette. Et dans notre pays, ce sont les vidéochocs de l'association L214 sur la réalité des conditions d'élevage qui ont considérablement accéléré les choses autour du phénomène du véganisme. Mouvement social et politique, le véganisme est beaucoup plus qu'un régime. C'est ce que nous allons voir cet après-midi avec le dossier de l'émission et vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, l'impact massif des voitures électriques sur les ressources.
Oui, avec cette question, notre planète est-elle assez riche en métaux pour nous permettre de rouler durablement à l'électricité? On en discute avec un expert des ressources non renouvelables, il s'appelle Philippe Biwix.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré, réalisée par Lucie Sarfati et Thomas Lehété. Et je salue l'association des dealers de science qui sont avec nous cet après-midi et qui nous arrivent de Bordeaux. Soyez les bienvenus.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, dossier dans un instant consacré au véganisme. Pour en parler, Jean-Baptiste Deslameaux de l'association L214 et le professeur de littérature et de vegan studies Renan Larue. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Renan Larue. On a le sentiment que les arguments des véganes sont en train de prendre une ampleur absolument considérable en ce moment. Est-ce que c'est vrai?
Oui, ils existent depuis très très longtemps, mais depuis quelques années, parce qu'il y a une espèce d'alignement de planète en quelque sorte en faveur du véganisme. Et donc évidemment, les gens sont de plus en plus intéressés par ce mode de vie qui est aussi un mouvement politique.
Jean-Baptiste Deslameaux, c'est un nouveau modèle de société qui est au cœur de la démarche végane, bien au-delà du simple régime alimentaire.
Oui, je pense que le véganisme, c'est l'application concrète d'un projet antispéciste sur lequel notre société va être amenée à se pencher sérieusement.
Et on va s'y pencher avec vous dans un instant. C'est le dossier de la tête au carré avec les réactions, j'imagine, nombreuses des auditeurs qui vont nous rejoindre, et dès maintenant d'ailleurs, sur le site de l'émission.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Faire rouler toutes les voitures à l'électricité, cette promesse est-elle soutenable? Question posée aujourd'hui à la une de la science.
Nous annonçons la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040.
Et c'est la voix de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, qui faisait cette promesse le 6 juillet dernier lors de l'annonce du plan climat du gouvernement. La semaine dernière, c'était au tour du gouvernement chinois de prendre cet engagement. Un parc automobile 100% électrique est-il pour autant envisageable? On en discute, Axel, avec notre invité Philippe Biwix.
Bonjour Philippe Biwix.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes ingénieur centralien, expert de la question des énergies non renouvelables, en direct avec nous depuis les studios de France Bleu Gironde, et dans ce studio, Hervé Kempf pour Reporter.net. Hervé, un monde où roule 100% de voitures électriques, ça ressemblerait à quoi?
Ça ressemblerait à un monde où les problèmes d'environnement resteraient très importants. Pourquoi? Parce que les autos, elles ont besoin de métaux, de nouveaux métaux pour fonctionner. Les autos électriques, elles ont besoin de lithium, de cobalt, de graphite pour les batteries. Et puis elles ont aussi besoin de terres rares pour les aimants du moteur, de ces nouveaux moteurs, par exemple le néodymium. Alors si toutes les autos devenaient électriques, ce qui pourrait arriver vers 2040 ou 2050 selon les experts, eh bien la consommation de ces métaux augmenterait énormément. 2900% pour le lithium, c'est-à-dire 29 fois plus, 1900% pour le cobalt, c'est-à-dire 19 fois plus, et 655% de plus pour les terres rares. C'est du moins ce qu'ont calculé les experts économistes de la banque UBS, l'Union des banques suisses, dans un rapport récent. Alors, ça poserait des problèmes de ressources. D'abord, y aura-t-il assez de ces matières, de lithium, de cobalt, de terres rares? Et puis, par ailleurs, l'impact écologique de l'extraction minière est toujours très importante, comme on le constate déjà pour le lithium en Argentine ou pour le cobalt en République démocratique du Congo.
Alors Philippe Biwix, quels sont les métaux qui vont le plus rapidement poser problème dans le monde des voitures électriques et pourquoi?
Alors pour les voitures électriques, probablement le cobalt est un bon candidat. Alors le cobalt, ça sert dans une partie des technologies de batterie, en complément du lithium. Il n'y en a pas forcément dans toutes les batteries. Vous avez par exemple 100% d'utilisation à la cathode de cobalt une batterie d'iPhone, par exemple, et vous avez certains types de batteries, au contraire, qui en ont 0%. Mais en général, il y en a, parce que c'est un produit qui est difficilement substituable. C'est probablement un bon candidat. Alors le néodyme, effectivement, qui est une terre rare, qui est produite aujourd'hui à 97% en Chine, est un autre bon candidat parce que c'est pas pour la batterie cette fois, c'est pour le moteur électrique. Ça sert à faire des aimants permanents. Ça sert aussi d'ailleurs dans les éoliennes, un peu dans tous les produits où il faut transférer de l'énergie cinétique en énergie électrique et réciproquement.
Et est-ce qu'on est en mesure d'estimer aujourd'hui combien de temps il faudrait justement pour épuiser toutes ces ressources en métaux de la planète si évidemment toutes les voitures passaient à l'électrique, Philippe Biwix?
Alors c'est là que c'est compliqué parce qu'en fait on a une dimension qui est à la fois technologique et géologique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut creuser des trous toujours plus profonds et récupérer des minerais avec des teneurs métalliques de plus en plus faibles, puisque c'est effectivement ce qui se passe, hein, pour l'ensemble des métaux d'ailleurs, comme le cuivre par exemple ou le nickel. Alors on peut le faire, le problème c'est qu'effectivement il y a une question économique derrière ça, est-ce qu'on peut se le permettre, hein. Alors effectivement une mine d'or, vous pouvez descendre à quelques grammes par tonne, mais une mine de cuivre ou une mine de nickel, ça sera plus difficile de descendre à ces teneurs-là de manière économique. Et puis vous avez la question énergétique, c'est-à-dire que plus vous creusez des trous profonds ou plus vous allez chercher des choses au fond des océans, là il y a déjà des expérimentations et des réflexions qui ont démarré il y a quelques décennies, mais qui s'accélèrent sur la question des nodules polymétalliques, par exemple, hein, pour remplir notre soif de minerais et de métaux. Et ben plus vous allez consommer d'énergie et plus a priori vous allez aussi créer des dégâts environnementaux. Donc la question c'est jusqu'où on ira. Ce qui est certain c'est que on reste dans ce paradigme, dans cette logique extractiviste. On va passer d'un type de minerai à un autre. On va passer en fonction des technologies. On va passer peut-être de l'extractivisme pétrolier à un extractivisme métallique encore plus. Mais on est aujourd'hui complètement dans la même logique et la croissance aujourd'hui fait qu'on va déjà extraire en l'espace de 20-25 ans plus pour l'ensemble des métaux que pendant toute l'histoire de l'humanité, hein, et ça va pas se calmer effectivement avec la voiture électrique.
Toutes ces matières premières dont vous parlez, elles ne sont pas recyclables?
Alors elles sont effectivement théoriquement recyclables et même de manière pratique aussi. C'est ça leur grand avantage évidemment par rapport au baril de pétrole que je sors de la croûte terrestre, que je brûle immédiatement, qui termine dans l'atmosphère avec les difficultés qui y sont liées. On peut effectivement recycler, les métaux se recyclent sans vraiment de perte de fonctionnalité. Simplement, aujourd'hui, nos produits sont de plus en plus complexes, sont de plus en plus mélangés, on utilise des alliages, on a des produits électroniques qui contiennent des toutes petites quantités de dizaines de métaux différents. Et du coup, quand ça arrive en recyclage, eh ben, il y a des difficultés assez fortes à réextraire ces métaux, à les séparer. C'est très énergivore, où ça consomme beaucoup de produits chimiques différents, parce qu'il faut attaquer les cartes électroniques, par exemple, avec des acides, avec des solvants, des choses comme ça. Et donc, en fait, on a un recyclage qui est extrêmement imparfait. Et plus on va vers des produits complexes, plus ce recyclage devient imparfait. C'est pour ça, par exemple, que vous avez des métaux, ça s'appelle les métaux des high-tech, qui sont utilisés dans tous les produits électroniques, qui sont littéralement recyclés à moins de 1%, dont les fameuses terres rares.
Hervé Kempf. Si on ne doit pas utiliser de moteur thermique pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, s'il ne faut pas utiliser de portable à cause du cobalt, ni d'auto électrique, ni d'éolienne à cause de l'utilisation de terres rares, quelles sont les solutions que l'on peut envisager?
C'est la très bonne question, évidemment. Alors, on peut imaginer que l'électrique résout à certains endroits certains problèmes. C'est-à-dire que on va enlever peut-être de la pollution avec des choses qui ont été émises dans les hypercentres, dans les grandes mégalopoles, et puis la pollution va être déportée ailleurs. Donc, ça peut régler un problème local. Effectivement, par contre, ça ne règle pas le problème d'une manière globale. Donc, malheureusement, on aura du mal à résoudre le problème si on reste dans la logique actuelle d'avoir des véhicules qui font 1,3 tonne ou 1,4 tonne pour transporter 100 ou 150 kilos d'êtres humains à l'intérieur et quelques bagages peut-être. Donc, une des solutions plus rapides pourrait être d'abord de baisser la vitesse et le poids des véhicules, sachant d'ailleurs quand on baisse la vitesse maximum et la puissance des véhicules, on peut automatiquement baisser le poids parce qu'il y a des logiques derrière et tout ça, ça va baisser l'énergie, c'est un demi de MV2, donc on va pouvoir, quand on baisse le poids et la vitesse au carré, on va pouvoir faire plein de choses sur les gains énergétiques. Et donc, L'idée, c'est d'aller, ça serait d'aller vers des voitures de plus en plus petites, de plus en plus simples, de plus en plus modulaires d'ailleurs, pour que leur durée de vie augmente, parce qu'il y a aussi une dépense énergétique à la fabrication, hein, pas seulement à l'utilisation, plutôt que d'aller vers des voitures au contraire de plus en plus enrichies en fonctionnalité, jusqu'à la voiture autonome d'ailleurs, qui elle est un désastre du point de vue ressources, parce qu'elle est bourrée de capteurs, d'électronique, etc. et elle va provoquer des milliers de gigaoctets par jour de données qu'il faudra stocker dans des data centers. Voilà, au lieu d'aller vers ça, aller vers des voitures beaucoup plus simples, à terme vers le pot de yaourt, qui va consommer peut-être un litre au 100, avant évidemment d'enfourcher un vélo qui est à l'échelle de quelques décennies, ou au moins en tout cas d'un siècle, est le seul moyen de transport à peu près durable qui aille plus vite que la marche à pied.
Une dernière question. Aujourd'hui, quel est le devenir d'une voiture en fin de vie? Quelle proportion est recyclée?
Alors, la proportion qui est recyclée, elle est très élevée. Elle est d'ailleurs réglementée, hein, par notamment la directive sur les véhicules hors d'usage. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle valoriser ou qu'est-ce qu'on appelle recycler? C'est-à-dire que vous avez, les pneus vont être valorisés, par exemple. Valoriser, ça veut dire qu'on les brûle dans des cimenteries. Et puis la partie métallique, elle va être effectivement récupérée. Alors, la batterie est plutôt bien récupérée, une batterie au plomb aujourd'hui pour les voitures normales. Enfin, thermique. Et ensuite, vous allez avoir toute la partie métallique, y compris la peinture, y compris les petits fils, les petits câbles électriques, etc. Ça va être broyé, ça va partir dans un four électrique. Et donc, en fait, on va bien effectivement recycler, mais l'usage des matières recyclées va faire qu'on va aller vers des aciers de bas de gamme, avec du cuivre, du molybdène, plein de choses qui vont être considérées comme des impuretés éventuellement. Et donc, on n'arrive pas à refermer et à reboucler ce cycle de l'économie circulaire qu'on espère, mais qu'on ne voit malheureusement pas arriver dans la réalité.
Bon, on retient quand même que la roue reste une bonne invention, hein, mais pour le vélo plutôt que pour la voiture. On va retrouver toutes ces infos sur reporter.net, Hervé. Hein.
Dès demain.
Merci à vous, Philippe Biwix. Je signale que vous êtes l'auteur d'un livre, L'âge des low-tech, qui a été publié aux éditions du Seuil. Merci Axel.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'expertise européenne sur l'herbicide glyphosate qui est remplie de copier-coller de documents de la firme Monsanto. Cette information nouvelle qui s'ajoute au sulfureux dossier du glyphosate en Europe nous vient d'un biochimiste autrichien qui a découvert le plagiat presque par hasard. Les passages copier-coller portent principalement sur l'évaluation des dizaines d'études indépendantes sur le glyphosate, où les commentaires censés être ceux de la commission sont en réalité les commentaires de l'industriel. Les réactions sont nombreuses après ces révélations. L'eurodéputé belge Marc Tarabella, rejeté par le monde, se dit dégoûté, en colère, mais certainement pas surpris. La e-cigarette, même sans nicotine, mène plus facilement à la cigarette classique chez les adolescents. C'est ce que pensent démontrer aujourd'hui les chercheurs de l'université de Waterloo. En décryptant les données de l'agence de santé canadienne, ils montrent que les jeunes ayant testé au moins une fois la e-cigarette au collège et au lycée sont deux fois plus nombreux à commencer à fumer que les autres. Au Canada, 10% des lycées disent avoir essayé au moins une fois la e-cigarette. Ce taux de glissage est inquiétant selon les chercheurs et devrait motiver des campagnes de sensibilisation. Et puis les éléphants d'Afrique qui changent leur rythme de vie pour éviter les braconniers. Dans la savane du Kenya et de Somalie, des chercheurs néerlandais ont suivi à l'aide de balises GPS le comportement de plusieurs éléphants. Et ils ont remarqué qu'ils commencent depuis quelques années à se déplacer et à se nourrir la nuit. La seule hypothèse qui explique ce changement complet est, selon les chercheurs, la présence d'une menace pour leur sécurité, et conclut que cette transition vers une activité nocturne est une stratégie pour éviter les risques de croiser des groupes de braconniers. Et dans un instant, nous parlons du véganisme.
Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso dans un dancing avec vue sur l'Arnaud. Au milieu de la nuit, un catimini, et va la nave, et va la douce vie. On s'en ira toute la vie dans.
martini et aller prendre un bain sur une plage à Capri. Voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso en Italie et boire à l'aigre ton manotropo du Grand Paris quand Paris est à l'eau.
Et c'est Lily Cube avec Voyage en Italie.
La tête au carré. Sur France Inter.
Voilà les côtes de peur.
Bah moi je mange pas de viande.
Ah bon?
Ouais. Tu n'aimes pas la viande?
Non, j'en prends pas.
Mais c'est pas grave, hein.
C'est grave.
Tu veux qu'on te fasse autre chose?
Non. Moi je sais pas, le taboulé ça va.
Ça va.
Ouais, tu peux aller nous le dire, hein.
Ouais. Et tu manges les œufs quand même, oui?
Non, je mange pas tellement.
Pas tellement?
Non, mais jamais tu manges de viande?
Non, jamais.
Et au niveau de l'organisme,
tout
pas de problème?
Non,
tout va bien?
Ouais. Il n'y a pas besoin de viande, franchement.
Ouais.
Bon.
Ouais, on comprend bien. Hein.
Non, mais...
Ah, des crabes. Bah, c'est des bêtes, tout ça.
Ouais, finalement, c'est tout ce qui représente l'animal qui te...
C'est des bêtes, tu vois. Mais Delphine, t'aimes bien le vert? La salade, par exemple, quand tu la sors du jardin, elle est vivante, mais après... Ouais, mais moi, je vois pas ça pareil.
Quand j'étais jeune, j'avais un peu des sentiments comme ça quand j'allais dans des boucheries. Maintenant, j'achète la viande dans des grandes surfaces et j'ai plus du tout ce sentiment-là.
Voilà, extrait du Rayon Vert d'Éric Rohmer, succulent extrait pour démarrer donc cette tête au carré consacrée au phénomène vegan au cœur donc de l'émission, alors que jamais la question animale n'a été aussi présente aujourd'hui dans la société. Qui sont les vegans et au-delà du militantisme en faveur du bien-être, justement, quel est le projet sociétal qu'ils proposent? On en parle avec vous, Renan Larue, vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Californie à Santa Barbara, et puis également de Vegan Studies. Qu'est-ce que c'est exactement pour comprendre?
Ah bah c'est tout nouveau, c'est un champ que j'essaie de développer avec quelques autres chercheurs aux États-Unis, en Amérique du Nord. Donc il y a déjà des animal studies ou critical animal studies.
Ouais.
On réfléchit au lien entre les êtres humains et les autres animaux d'un point de vue moral, philosophique, etc. Et avec les vegan studies, j'essaie de réfléchir à ça, évidemment, ce sera un point très important. Puis aussi, j'ai envie de réfléchir à l'étude du mouvement vegan. Quels sont ses enjeux, donc d'un point de vue économique, philosophique, psychologique, etc.
Ouais.
Donc c'est l'étude de ce mouvement-là et aussi une espèce de réflexion sur les enjeux qui sont autour de lui.
Et vous publiez Le Véganisme aux éditions Que sais-je au PUF, et en 2015 vous avez reçu le prix La Bruyère de l'Académie française pour votre autre ouvrage Le Végétarisme et ses ennemis. Jean-Baptiste Delamo, vous êtes écrivain, vous publiez L214, Une voix pour les animaux aux éditions Artaud. En 2009 vous avez reçu le prix Goncourt du premier roman pour Une éducation libertine, et puis on est très heureux parce que vous avez reçu le prix du livre Inter cette année pour Règne animal, avec les auditeurs donc qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Un mot d'abord sur l'idée de cet ouvrage un peu particulier autour de L214, Jean-Baptiste Delamo, parce que là on voit vraiment le travail de l'association.
Bien, au départ, c'est une invitation des éditions Artaud et de l'éditrice Valérie Dumège qui a contacté L214 pour leur proposer ce projet d'écrire un livre sur le fonctionnement de l'association.
Mm-hmm.
Et puis, il se trouve que j'ai rejoint, moi, en tant que militant L214 il y a 2 ans environ maintenant.
Ouais. Brigitte Gauthier dit D'L214 qu'elle a tout fait pour que ça se fasse pas, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, elle était un peu dubitative au départ sur l'intérêt d'un tel projet. Et puis finalement, donc, ils m'ont proposé de le mener. Et on s'est aperçu que ça nous permettait à la fois de retracer l'histoire de l'association, au-delà l'histoire du mouvement animaliste en France aussi, et puis de transmettre probablement un message au lectorat.
Ouais. Est-ce que, Renan Larue, les Américains en sont exactement à niveau que les Français en ce moment? Parce que nous, on a quand même justement L214 qui a fait énormément bouger les lignes avec ses vidéos consacrées aux élevages industriels. Est-ce qu'aux États-Unis, on a à peu près le même type de phénomène ou pas?
Alors, on a des associations très fortes, comme PITA, par exemple, et quelques autres qui sont plus anciennes que L214, mais je dois dire que le travail de L214 depuis, on va dire, 2-3 ans, là, surtout avec les vidéos, est vraiment remarquable, je trouve, dans le monde occidental. Et en quelque sorte, grâce à cette association, on rattrape un peu le retard qu'on avait.
Ouais. Qu'est-ce qui a fait, Jean-Baptiste Delamo, justement, que ça a pris, là, depuis 3-4 ans avec ces vidéos?
Je pense que c'est un concours de circonstances. Il y a à la fois l'émergence du débat qui se situe à plusieurs niveaux. Il y a le débat sur la question environnementale, sur la santé publique.
C'est le prolongement de la discussion qu'on avait sur les voitures électriques tout à l'heure. C'est le problème des ressources et de leur épuisement.
Exactement. Hein. Et ces débats sont devenus légitimes. Et bien sûr, le temps de parler de la souffrance animale est venu lui aussi. Et c'est vrai que les vidéos de l'association L214, qui d'ailleurs, d'un point de vue de la méthodologie, s'inspirent beaucoup d'expériences d'associations anglo-saxonnes, ces vidéos-là ont porté au grand public la connaissance de la réalité des élevages et des abattoirs. Et sans doute, le public était prêt à accueillir ces images et cette réflexion.
Ouais. Et ça a joué sur la consommation de la viande. Est-ce qu'on peut vraiment établir une courbe aujourd'hui sur la baisse, en tout cas, de consommation?
Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, la consommation de viande rouge a légèrement baissé.
Légèrement seulement?
Oui, assez légèrement, et c'est à relativiser, parce qu'en revanche, la consommation de poisson et de viande blanche a augmenté.
Ouais. Et ça, vous dites bien à quel point, d'ailleurs, Renan Larue, on oublie de parler de cette question du poisson.
Oui, alors on oublie le poisson, effectivement, qui représente en fait les poissons. On s'intéresse beaucoup au sort des animaux qui sont tués dans les abattoirs, mais ils représentent qu'un dixième ou une toute petite partie des animaux qui sont tués. Les grands oubliés dans l'histoire, en fait, ils sont les plus nombreux, ce sont les poissons dans les océans. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose. Effectivement, la consommation de viande rouge a diminue progressivement chaque année depuis la fin. Depuis 1998, il y a un tassement de la viande rouge, mais ça se traduit pas par une diminution du nombre d'animaux qui sont tués. Au contraire, parce que ça, on mange plus de poissons et on mange plus de viande blanche. Ce qui fait qu'en fait, on mange chaque jour moins de viande en volume, en poids, mais on tue davantage d'animaux, on mange davantage d'animaux dans une semaine.
Est-ce que ça, Jean-Baptiste Delamo, c'est pas un peu un échec pour vous qui militez justement?
En tout cas, ça doit nous questionner. Ça doit questionner la méthodologie du mouvement. C'est vrai qu'il y a encore assez peu d'enquêtes relatives à l'abattage des poissons, parce que ça se passe sur les bateaux, que ce sont pas des milieux qui sont faciles d'accès. Il y a une question d'information et de sensibilisation aussi du public sur la question de la cognition chez les poissons, par exemple. Bien souvent, on dit aux végétariens, enfin, tu manges pas de viande, j'espère que tu manges au moins du poisson. Ouais. C'est dire à quel point on ne considère même pas les poissons comme des animaux.
Ouais. Alors justement, est-ce que le recours aux vidéos sera toujours suffisant? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une sorte d'habitude de la part du public aussi de voir ces images toutes plus terribles, certes les unes que les autres, mais dont finalement on peut constater qu'il y a une certaine habitude là?
Oui, on peut se poser la question du phénomène d'habituation. Effectivement, je pense que les vidéos ne composent qu'un des axes de travail pour ces associations-là, qu'à côté il y a tout un travail d'information, de pédagogie, de sensibilisation, de proposer des alternatives aussi, de montrer une autre voie possible d'alimentation.
Ouais. Renan Larue.
Oui, effectivement, c'est le risque. On risque de s'habituer à la violence faite aux animaux. Et il me semble quand même que on vit dans des sociétés très, très peu violentes, en fait. On ne voit jamais les animaux se faire tuer. Les Français qui tuent des animaux de leurs propres mains sont assez rares. Je pense que j'avais fait le calcul pour le que sais-je avec Valérie Giroux. On est 3 ou 4% seulement des Français à tuer des animaux de notre propre main. Tous les autres ne le voient pas. Donc, je suis quand même. C'est une manière de mettre un bémol sur la question de l'habituation.
Oui, un autre élément aussi intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que, par exemple, des enquêtes qui sortent aujourd'hui sur des couvoirs industriels, des enquêtes qui avaient déjà été publiées concernant d'autres élevages dans le passé et qui n'avaient pas suscité énormément de réactions, désormais les gens sont plus sensibilisés aussi à la question de la souffrance animale, et quand ces enquêtes paraissent, les réactions sont bien plus importantes. Donc ça montre aussi qu'il y a une évolution du regard du grand public.
Il y a un point qui a été marqué, c'est que maintenant, il est beaucoup plus difficile qu'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans de dire que ce qui se passe dans les abattoirs est respectueux des animaux. C'est-à-dire que la multiplication des vidéos empêche l'argument qui consiste à dire « Ah, oh, c'est une exception ».
Et on tue bien aujourd'hui.
On tue ça. Là, les gens ne peuvent plus dire ça, ne peuvent plus se cacher derrière cet argument-là, je crois.
Et même pour le monde du bio, ça a beaucoup choqué, justement, les consommateurs du bio, parce qu'on voit que finalement, les poulets, par exemple, sont traités quasiment exactement de la même façon.
Oui, bien sûr, plusieurs abattoirs visés par les enquêtes L214 sont des abattoirs labellisés bio ou label rouge, et on s'aperçoit que les conditions du bio, qui d'ailleurs sont en élevage, sont loin d'être idéales, mais s'arrêtent bien sûr à la porte de l'abattoir, et que la tuerie est la même pour tous les animaux.
Alors, il y a beaucoup de questions des auditeurs sur ce que deviendraient les races d'élevage si tout le monde passait justement au véganisme. Patrick nous demande, un monde comme ça, est-ce que ça ne va pas entraîner la disparition de toutes les races qui, de fait, n'auraient plus de raison d'être?
Oui, alors première chose, c'est que ces races d'animaux d'élevage, donc les vaches, les cochons, etc., ce sont des races qui n'existaient pas à l'état naturel. Ce sont des animaux qu'on a sélectionnés, transformés, adaptés pour qu'ils produisent énormément, en général au détriment de leur propre santé. Hein. Les animaux qui sont dans les fermes aujourd'hui, dans les élevages, sont des animaux qui sont structurellement malades. La plupart des vaches aujourd'hui, une grande partie d'entre elles ne peuvent pas mettre bas naturellement, ce qui prouve qu'il y a quand même un petit problème. Ouais. Donc effectivement, si on tend vers un monde de plus en plus vegan, ces races d'animaux-là risquent de disparaître, et tant mieux pour ces individus-là qui seront moins maltraités, moins malades naturellement.
Jean-Baptiste Delamo, il y a ce courriel d'un couple de maraîchers. Les véganes, disent-ils, m'apparaissent comme des extrémistes qui n'ont pas vraiment réfléchi à tout. Nous sommes maraîchers, nous avons des poules qui mangent nos déchets agricoles, pondent des œufs sans contrainte. À leur rythme, nous mangeons les œufs qu'elles nous offrent. Je ne comprends pas pourquoi, aux yeux des véganes, nous sommes des monstres. Alors c'est vrai que cette question des œufs, elle est tout à fait particulière, parce que des poules peuvent tout à fait bien vivre, en dehors évidemment des batteries industrielles, mais enfin, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous
sur la question des œufs, lorsqu'il s'agit de poules élevées en liberté, qui ne sont pas destinées à être abattues, qui font des œufs qu'elles abandonnent. Moi, je ne vois pas d'obstacle moral à l'idée de consommer ces œufs-là. Certains militants antispécistes estiment que tout produit animal ne doit pas être consommé. Moi, je suis un peu plus modéré sur ces questions-là, mais je pense que ce qu'on doit dénoncer avant tout, c'est pas des cas extrêmement particuliers comme ça. C'est la réalité de la majeure partie des œufs commercialisés qui viennent d'élevage et de couvoirs industriels.
Renan Larue, une clause spéciale pour les œufs ou pas?
C'est un moindre mal, évidemment, mais il reste la question des mâles. Qu'est-ce qu'on fait des coques, etc. Si les gens ont des poules dans leur poulailler ou dans leur jardin, mais ils n'ont pas beaucoup de coques, évidemment, parce que les coques ne servent à rien. Donc, en général, ils sont tués à la naissance ou très tôt. Voilà. Donc, quand on commence à vouloir utiliser des animaux comme ça gentiment, il y a assez rapidement des problèmes pratiques qui se posent.
Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a beaucoup de messages pour vous. Franceinter.fr, le mot-clé l'attaque pour nous rejoindre. Et puis également la page Facebook de l'émission pour parler ensemble du véganisme.
Any other way?
The National, à l'instant, sur France Inter, dossier consacré donc au véganisme avec mes invités Jean-Baptiste Delameau, ce livre L214, une voix pour les animaux, c'est chez Artaud. Et puis Renan Larue, vous avez écrit avec Valérie Giroux, le véganisme aux éditions du PUF dans la collection Que sais-je, avec donc les messages des auditeurs très nombreux, nos camarades de l'association Dealers de Science hein, qui viennent de Bordeaux. D'ailleurs, on a fait un petit sondage pendant le disque. Il y a quoi? Vous êtes une vingtaine cet après-midi. Et parmi vous, il y a combien? Deux. 3 A, un peu plus quand même, 4 véganes, hein, dont un végétarien, hein, c'est ça. Alors les messages sur le site de l'émission, il y a Martine qui nous dit « J'en ai vraiment assez d'entendre au moins une fois par semaine sur les médias français ce thème du véganisme qui semble surtout faire grand bruit dans les salons parisiens et le monde des médias. Je pense que le temps d'antenne qui est consacré est sans commune mesure avec le nombre de gens qui se sentent concernés par ce changement de société. J'habite la province profonde, je suis omnivore comme les hommes de tous les temps et je n'ai pas l'intention de changer mon régime alimentaire. » Il y a beaucoup de omnivores, carnivores hein, qui nous écrivent cette après-midi. Renan Larue.
Oui, bah c'est vrai qu'on en parle de plus en plus à Paris, c'est possible, et dans les médias, c'est vrai. Mais on parle aussi beaucoup de la consommation de viande. Il y a la publicité à peu près tous les jours, tout le temps, pour le fromage, pour la viande, pour le poisson. Je trouve que il y a encore un déséquilibre en faveur de l'agro-business, on va dire, enfin,
ouais,
des vendeurs de viande et
de
poissons.
Delameau.
Ah ben moi, j'habite dans le fin fond du Loir-et-Cher. Je me sens tout à fait concerné par cette question, comme de nombreuses personnes autour de moi. Je crois pas du tout que ce soit un débat parisien, au contraire.
Léa nous dit, le véganisme parle de la souffrance animale. La réflexion a-t-elle été poussée à la souffrance végétale? Je ne sais pas si son message est ironique, mais ça revient souvent, ça, dans les arguments.
La souffrance de la laitue, de la carotte,
ou le cri de la carotte, voilà, c'est ça.
Ben, je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur nos connaissances scientifiques, qui sont que certes, les végétaux sont des êtres vivants, mais qu'en revanche, ils sont dépourvus de systèmes nerveux, et qu'ils ne peuvent donc éprouver ni émotion, ni sensation, et que ça nous éclaire quand même sur la question.
Ouais, Renan Larue, c'est l'argument tarte à la crème qui revient toujours
hein. Oui, c'est un argument qui a 21 siècles, un peu plus, 22 siècles à peu près. Donc, il y a des auteurs dans l'Antiquité qui écrivaient contre le végétarisme et qui utilisaient cet argument-là.
Voilà. Un éleveur est céréalier bio, comment les véganes ferment totalement les yeux sur le fait que la culture des légumes et céréales qu'ils consomment utilise des déjections et déchets animaux, ou alors ne sont-ils jamais allés chez un céréalier ou maraîcher bio, Jean-Baptiste Delameau?
Alors je pense que déjà la totalité des cultures n'utilise pas des déchets d'origine animale. Il est tout à fait possible d'avoir une culture en utilisant des déchets végétaux. Et pour suivre cette réflexion-là, il faut se rappeler que 2/3 des terres de culture aujourd'hui dans le monde sont destinées à la production de végétaux, non pas à destination de la consommation humaine, mais destinées à la consommation des animaux d'élevage, ce qui est énorme. Imaginons un instant ce fameux monde antispéciste dans lequel l'élevage n'existerait pas. Au niveau de la répartition des ressources, ce serait bien plus égalitaire. Et je crois que voilà, il y a aussi cette réflexion-là derrière le projet antispéciste.
Renan Larue, vous parlez de ce paradoxe de la viande hein, et de tous ces mécanismes finalement de déni que nous entretenons. Bon, d'abord, la viande, ça reste quand même le plat central du repas français. C'est quoi, au fond, ce déni dont vous parlez?
Alors il y a le déni, c'est le fait de savoir et de ne pas savoir, c'est le fait de vouloir oublier très très vite ce qui se passe derrière les murs de l'abattoir ou derrière les murs des élevages.
C'est l'ambivalence au fond du rapport
ouais,
à l'animal.
Il y a le déni, puis une fois que L214 nous met des images incontestables sous les yeux, il y a tout un mécanisme psychologique qui s'actionne pour essayer de continuer à consommer des produits d'origine animale et tout en gérant ce qu'on vient de voir sur Internet ou dans les médias. Donc c'est ça. Donc on a ce qu'on appelle cette dissonance cognitive, ce malaise entre ma pratique, qui est une pratique omnivore, et puis mes croyances, mes valeurs morales qui sont « ne fais pas de mal à autrui ». Voilà. Donc en fait, on essaie de trouver des... Il y a une espèce d'acrobatie intellectuelle, psychologique, pour essayer de faire cohabiter ces deux choses très, très diverses.
Jean-Baptiste Alamo, vous êtes d'accord avec ce terme de dissonance cognitive ?
Oui, je pense qu'on est tous plus ou moins victimes. Effectivement, ce sont des mécanismes de défense qui visent à nous déculpabiliser, parce que même si ça n'est pas un discours qui a vocation à culpabiliser, quand on se retrouve face à ces images-là, on comprend aussi le rôle qu'on joue dans ce système de consommation et on doit forcément questionner, du coup, interroger nos modes de consommation.
On va écouter cette archive de 1949 qu'a retrouvé pour nous Fanny Boyon. S'appelle Le sang des bêtes. C'est un documentaire de Georges Franju qui montre la mort des animaux dans les abattoirs parisiens de la Villette et de Vaugirard. Écoutez.
Aux portes de Paris, l'abattoir est relié au marché par un pont jeté sur l'Ourcq pour le transbordement du bétail.
Dans l'ambiance assourdissante des treuils pneumatiques, les tueurs et ouvriers des chaudoirs travaillent entourés des vapeurs grises du sang des bêtes. Pour être dépouillé, le mouton est boxé. Je te frapperai sans colère et sans haine, comme un boucher, a dit Baudelaire. Sans colère, sans haine, et avec la simple bonne humeur des tueurs qui sifflent ou chantent en égorgeant. Parce qu'il faut bien manger chaque jour et faire manger les autres au prix d'un très pénible et souvent dangereux métier.
La journée se termine. Dans l'étable, les moutons encore agités s'endormiront avec le silence. Ils n'entendront pas les grilles de leur prison se refermer sur eux, ni le petit train de Paris-Villette qui s'en ira à la tombée de la nuit chercher dans les campagnes les victimes du lendemain.
Voilà, 1949, étonnant document aux portes de Paris, donc avec ses abattoirs. Renan Larue, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, effectivement, il y a ce problème, en fait, qui est un vieux problème. C'est Louis-Sébastien Mercier, qui est un écrivain de la fin du XVIIIe siècle et qui militait pour la création d'abattoirs pour refouler les tueries, c'est-à-dire l'endroit où on tuait les animaux hors de la ville de Paris. Mmh. Et il était pris vraiment en pleine dissonance cognitive aussi, parce qu'il réclamait qu'on ne voit plus la souffrance animale. Il aurait préféré que la nature humaine, d'après lui, soit végétarienne, frugivore, etc. Mais il disait « la nature est malheureusement forcée d'être barbare ». Voilà, donc ça, c'est l'existence des abattoirs qui remonte au début du XIXe siècle était une manière de refouler en quelque sorte de la vue, de la pensée, la souffrance des animaux. Et puis, c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a la conséquence lointaine indirecte de ce refoulement, c'est qu'on est devenu de plus en plus sensible. Et dès qu'on voit les images d'abattoirs, etc., il y a un choc psychologique très fort. Donc, grosso modo...
Tellement on a été écarté au fond de cette réalité.
C'est ça, c'est une hypothèse qu'on formule, c'est-à-dire qu'on est devenu beaucoup plus... Pas trop sensible, on est devenu très très sensible, et quand on voit la réalité de l'élevage qui est de plus en plus violente, ça fait boum, en quelque sorte. D'où l'efficacité de ces images-là comme mécanisme, comme déclic pour passer vers le véganisme.
Jean-Baptiste Delamo.
Oui, effectivement, les abattoirs ont été repoussés hors des villes, sont devenus des boîtes noires, et même à l'intérieur des abattoirs, bien souvent, le poste de la tuerie est dérobé par un mur à la vision des autres ouvriers, de manière à ce qu'eux-mêmes n'interviennent que sur des carcasses, finalement, et n'aient pas véritablement conscience d'intervenir sur des animaux. Donc ça nous dit beaucoup de choses, justement, de cette dissonance cognitive qui existe même à l'intérieur de l'abattoir.
Virginie nous dit qu'il faut du temps pour faire accepter et entendre le véganisme, car le changement vient de nous, consommateurs, et que les mentalités mettent des années, voire des générations à évoluer. Que conseillez-vous pour aider à faire justement évoluer plus rapidement ces mentalités, Jean-Baptiste Delamo ?
Je crois qu'il faut continuer de montrer cette réalité-là, de l'expliquer, de dévoiler quelles sont les pratiques d'élevage et d'abattage, et qu'à côté de ça, il est aussi très important de donner aux citoyens la mesure de leurs possibilités d'action, que ce soit en interpellant des politiques, que ce soit en changeant d'alimentation. Il y a tout un travail d'accompagnement et de pédagogie qui est nécessaire.
Ouais. Evelyne demande, merci de demander à vos interlocuteurs ce qu'est l'habituation dont on parlait tout à l'heure, Jean-Baptiste Delamo.
C'est le phénomène qui fait que face à des images répétées de violence, finalement, on en vienne peut-être à être moins touché, moins atteint et à s'habituer à la vision de cette violence-là.
Pierre-Michel nous dit, il y a quelques jours, j'ai entendu que les industriels de la malbouffe étaient à la manette pour pousser le véganisme afin de pouvoir plus facilement promouvoir des protéines de synthèse qui seraient déjà au point. Alors, aux États-Unis, effectivement... Ouais. Il y a même des investissements de la part de milliardaires dans la Silicon Valley.
Les industriels, ils poussent surtout pour gagner plus d'argent. Donc, ils voient qu'il y a un marché qui commence à s'ouvrir pour eux. Donc, ils font ça. S'il fallait si le marché s'était tué plus d'animaux, il tuerait plus d'animaux, tout simplement. Bon, effectivement, il y a une espèce de mode qui a commencé il y a 7-8 ans vers la viande de synthèse. Donc, Bill Gates et les gens de la Silicon Valley ont adoré ces projets portés par Ethan Brown, par exemple, de Beyond Meat. Voilà, c'était très à la mode. Là, ça, et bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça, là, les espoirs qui étaient gigantesques il y a quelques années sont moins forts. Et il y a des viandes, on va dire des viandes végétales, faites à partir de pois, de soja, etc., de luzerne, qui commencent à prendre, je trouve, de plus en plus d'ampleur. Et en fait, on parle beaucoup des viandes in vitro, donc c'est peut-être une piste de réflexion, mais il y a déjà, en quelque sorte, aujourd'hui...
Enfin, c'est de la cellule animale, la viande in vitro,
oui,
pour
bien
le
sûr,
coup.
Oui, hein. Évidemment, mais sans la souffrance dans les élevages et les abattoirs.
Les véganes sont plutôt favorables à ce type de viande, Jean-Baptiste Delamo?
Oui, bien évidemment, parce que ça laisse présager d'un monde dans lequel la souffrance animale serait moindre, serait considérablement réduite. En revanche, dans le projet antispéciste, il me semble évident qu'il faut aussi souhaiter un développement de cultures éco-responsables et qu'on ne peut pas uniquement miser sur le développement de ces alternatives-là.
Recharge mes batteries, j'ai besoin de ton regard. Recharge mes batteries, recharge mes batteries. Enchanté Antoine, je brise les rêves et les cœurs, mais j'ai un bon fond, promis. Je voulais plus d'air, plus de distance, j'en ai juste un peu trop mis. Assis ensemble sans se dire un seul mot dans le tromé. Je pouvais devenir un artiste, alors je l'ai fait. Mais j'ai vu qu'elle avait mal sous le plexus et mes excuses n'avaient plus un seul effet. Aïe, attention à ce que les cerveaux agités promettent. J'ai déjà menti, oui, mais le jour où je lui ai dit que j'étais honnête, aïe. Comment on a fait pour atteindre ce stade? Ok, je suis peut-être peu stable. Je sais plus si je veux renaître ou juste être une star. Je me suis perdu comme les lettres de Stan. Un jour elle m'a dit qu'elle souffrait, que c'était terrible dans sa tête. Mais ce jour-là je l'ai pas écouté, j'avais des rhumes dans la tête. Je parle trop souvent de ma musique, ça a peut-être un peu empiété. Je lui ai dit qu'elle était pas unique, ce soir elle dort avec sa fierté. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. Dieu dise le contraire. Dieu dise le contraire. J'ai craché des mots tranchants. Fille n'a pas été blessée. Dieu dise le contraire. Dieu dise le contraire. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Hey, j'ai la belle vie, je fais des bons morceaux, je fais des bons concerts. J'écoute mes maquettes à fond, j'entends plus les bons conseils. J'ai la dalle comme ce con de Luffy, faut que je comble vite. L'image de soi-même c'est précieux. Quelques doutes et mes démons revenaient. Elle est belle, mais si je regarde ses yeux, c'est peut-être juste pour y voir mon reflet. On a marché sans se dire un mot pendant des heures à Paris. Aïe aïe aïe. Elle est irremplaçable, mais je m'en rendrai compte seulement quand elle sera partie. On profite jamais de ce qu'on a. J'ai cherché la réponse en fixant le plafond jusqu'à 5 heures. Le genre de problème qui casse un cœur. Merde. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. Dieu dise le contraire. Dieu dise le contraire. J'ai craché des mots tranchants. Fille n'a pas été blessée. Dieu dise le contraire. Dieu dise le contraire. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Oups, je l'ai touché dans le cœur. 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 Oups, je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Oups, je l'ai touché dans le cœur.
Yeux disent, c'était l'homme pâle sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, à nouveau Guillaume Meurice pour L214. Donc il y a quelques mois, on vous avait montré des images de l'abattoir de cochons de Houdan. C'est un abattoir qui se situe dans les Yvelines. On y voyait notamment des employés s'acharner sur les animaux à coups de pied, d'aiguillons électriques pour les faire avancer. Et l'association avait aussi voulu vous montrer comment les cochons sont gazés. Et vous allez maintenant mieux comprendre pourquoi L214 tenait absolument à vous montrer ceci. Voilà, donc réaction de fuite, sursaut, convulsion, souffrance respiratoire, asphyxie. Bon, faut pas être chercheur au CNRS pour constater que c'est une méthode qui est pas vraiment une partie de plaisir pour les animaux. En gros, si vous voulez, ils ont l'impression de se noyer. En même temps, ça les brûle à l'intérieur. C'est pas cool. Hein, on pourrait dire c'est pas cool. Donc, amis consommateurs de viande, vous êtes désormais bien informés, en vous souhaitant bien évidemment un bon appétit.
Voilà, c'était Guillaume Meurice dans un clip qu'on a beaucoup vu circuler là sur Internet ces derniers jours. Jean-Baptiste Delamont pour L214 et Ronan Larue, nos invités donc cet après-midi. Beaucoup de personnalités viennent vous rejoindre maintenant. Comment ça fonctionne pour justement pouvoir promouvoir les messages que vous souhaitez diffuser ?
Oui, ce sont des personnalités qui contactent l'association en lui témoignant leur intérêt, leur soutien. Mm-hmm. Ça peut aussi être des personnalités qu'on sollicite parce qu'on a lu, par exemple, dans une interview qu'elles avaient un intérêt particulier pour la cause.
Ouais. Pour autant, que propose, demande Jacques, les responsables de L214 pour la prise en charge des paysages de notre pays si on abandonne l'élevage, notamment les ruminants? Est-ce que ça fait partie des pistes de réflexion au sein d'associations comme la vôtre ou pas?
Aujourd'hui, ça, il me semble que c'est encore assez secondaire comme questionnement, même si on peut imaginer dans ce monde antispéciste idéal que par exemple des zones sanctuarisées pourraient être dédiées à certains troupeaux, par exemple. Donc ça peut être une des pistes envisageables. En revanche, tout à l'heure, on parlait de la disparition de certaines races qui inquiète plusieurs de nos auditeurs. En ce moment, on entend aussi beaucoup parler de la sixième extinction des espèces. Et quand on prend la mesure de l'impact environnemental de l'élevage, qui est phénoménal, et de la disparition de 50% des espèces depuis 40 ans environ, il me semble un peu étrange qu'on s'inquiète davantage de la disparition des vaches et qu'on laisse totalement dans l'oubli toutes ces espèces qui disparaissent.
Dans la rue, pour compléter là-dessus.
Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est pas les ovicines véganes extrémistes qui disent ça. C'est l'ONU, par exemple, qui s'inquiète très sérieusement de la disparition de ces espèces-là, qui sont les victimes collatérales de l'élevage. Mmh.
Voilà. Et puis sur la question de l'élevage, il faut aussi rappeler que la majeure partie des animaux aujourd'hui sont élevés dans des bâtiments clos et non pas dans des prairies. 99% des lapins sont élevés hors sol, 95% des cochons, donc ce ne sont pas des troupeaux qui modèlent nos paysages et que nous voyons régulièrement batifoler dans l'herbe.
Juste une petite question sur l'extrait qu'on a entendu avec la voix de Guillaume Meurice. À quoi ça sert au fond ces ascenseurs de CO2 là, pour ces cochons qui ont l'air de souffrir terriblement? Enfin, quel est l'avantage de leur faire endurer une telle souffrance au fond?
Alors, ce sont des méthodes d'étourdissement qui bien souvent entraînent la mort et qui permettent en fait de charger plusieurs cochons dans une nacelle et donc de les plonger dans ce gaz qui est un gaz aversif avec pour objectif d'entraîner pour le moins l'inconscience, éventuellement la mort avant la saignée.
Ouais, mais c'est extrêmement long. Enfin, on voit vraiment la torture sur l'animal.
Ça dure plusieurs minutes. C'est extrêmement violent.
Et il faut rappeler qu'on pourrait étourdir l'animal autrement. Enfin, s'il fallait choisir une méthode moins pire.
Alors, malheureusement, les méthodes moins pires, on doute aujourd'hui qu'elles existent. Les images prouvent que non. Il me semble aussi important de rappeler, puisqu'on parle spécifiquement de l'abattoir d'Oudang, c'est un des premiers abattoirs à s'être équipé d'un système de vidéosurveillance supposé garantir le bien-être des animaux au sein de l'abattoir et que l'association a pourtant révélé des pratiques qui provoquent une immense douleur chez les animaux.
Pourquoi supprimer le lait, les fromages, la crème fraîche? Je comprends totalement qu'il excelle dans la consommation de viande et de poisson, mais pour le reste, demande Jean-Pierre. Il y a beaucoup de questions pour comprendre vraiment les véganes.
Oui, le véganisme soulève beaucoup de questions. Le lait, en fait, pour produire du lait, il faut qu'il y ait un veau, il faut que la vache mette bas et on doit écarter le lait, on doit écarter le veau de la mère pour récupérer le lait tout simplement. Donc en fait, si on est végétarien et si on consomme du lait en disant qu'on tue pas d'animaux, en fait on en tue, on y participe puisqu'on doit tuer les veaux, on doit séparer très tôt la mère de son enfant, ce qui évidemment cause des troubles psychologiques très importants des deux côtés. Et puis les vaches tire son...
Vous parlez de troubles psychologiques pour les vaches?
Ah oui, parce qu'en fait, ce sont des animaux qui sont très sociaux. Même les éleveurs le savent très bien. Hein. On peut pas mettre deux vaches qui s'entendent pas l'une à côté de l'autre. Elles sont des attachements et des amis, des amitiés très fortes entre les vaches. Effectivement, l'attachement presque sacré entre un maire et une mère et un petit, voilà, est brisé du fait de l'industrie laitière.
Monique demande, est-ce que ça serait pas bien de réfléchir à des solutions d'abattage sur les lieux d'élevage? Alors ça aussi, ça fait partie des solutions qui sont proposées. Je suis éleveur bovin, nous dit-elle. J'élève mes animaux dans la tendresse et le respect. Je pense que s'ils étaient abattus chez moi, nous pourrions certainement trouver des solutions pour une mort rapide, sans souffrance et en évitant les maltraitances dans les abattoirs. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de proposition?
Oui, je comprends tout à fait l'intérêt pour les petits éleveurs de voir leurs animaux abattus à la ferme, ne serait-ce que pour leur éviter déjà le déplacement, etc.
Ça, c'est déjà dans certains pays, hein. Très bien.
Voilà. Après, la réalité de l'élevage en France, c'est qu'aujourd'hui, une majorité des élevages sont des élevages industriels, que du coup, dépêcher l'abattage à l'arrière de ces bâtiments d'élevage ne changera pas grand-chose aux cadences. Et puis, se pose également la question du contrôle vétérinaire, qu'on voit déjà tout à fait inefficace et défaillant au sein même de ces structures qui sont supposées être extrêmement contrôlées. Qu'en sera-t-il justement au sein même des élevages? Et enfin, ça ne solutionne malheureusement pas la question de la légitimité de mettre à mort des êtres dotés de sensibilité.
Benoît nous dit, les véganes ne consomment pas les produits qui n'impliquent pas la mise à mort d'animaux, comme les œufs ou le lait, mais ont-ils la même considération pour les ouvriers de pays à bas coût qui fabriquent leurs smartphones ou leurs vêtements en matière synthétique? Le rapport entre le bien-être animal et humain n'est-il pas un peu disproportionné dans ce mode de vie? Renan Larue.
C'est pas parce qu'on est végan qu'on se désintéresse totalement du sort des ouvriers en Chine ou des petits-enfants africains, etc. C'est-à-dire que la compassion pour certaines espèces animales n'entraîne pas une insensibilité aux autres causes. On peut être tout à fait végétalien dans sa vie, on peut être végane et militer pour d'autres associations qui protègent les conditions de vie des ouvriers dans le tiers-monde, etc. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites récemment sur la psychologie des véganes, des végétariens, et en fait on se rend compte que les personnes qui sont végétariennes et véganes ont plus de compassion non seulement pour les animaux, bon, ça c'est attendu, et aussi envers les êtres humains. Donc, il y a beaucoup de tests qui sont faits, donc on montre des images très violentes de torture sur des animaux et sur des êtres humains à des omnivores et à des végétariens, et on mesure l'activité cérébrale des uns et des autres. Et en fait, les végétariens et les véganes ont plus de réactions émotives, ont plus d'empathie pour les êtres humains et pour les animaux. Et ça se retrouve aussi d'un point de vue sociologique, où il y a beaucoup d'études qui ont fait sur les végétariens et les véganes, et très souvent, les végétariens et les véganes travaillent plus dans des associations humanitaires, donnent davantage pour les œuvres de charité, etc. Donc on a un cœur, on n'en a pas, disait Lamartine, effectivement. Ça fonctionne pour les animaux comme pour les êtres humains.
Jean-Baptiste Delamo.
Oui, effectivement, c'est aussi ce que j'ai découvert en faisant des portraits des militants de l'association L214, que la plupart d'entre eux sont très investis dans le milieu associatif, viennent souvent de combats humanistes, humanitaires, et sont bien loin de cette caricature du militant antispéciste misanthrope.
Oui, parce que les véganes, enfin ceux qui vont vraiment très loin, ne portent même pas de cuir. Hein. C'est ça aussi l'idée de,
la philosophie. Oui, tout à fait. Les véganes ne portent pas de cuir et essaient, tant que faire se peut, d'éviter au maximum d'utiliser des produits provenant de l'exploitation des animaux.
Quelle est la suite pour vous, pour l'association L214? À nouveau, toujours proposer ces vidéos choc, où vous allez changer un petit peu de stratégie?
Alors, je crois que à ce jour, seul un petit panel des pratiques des abattoirs et des élevages a été montré, et qu'il y a bien sûr encore bien d'autres images. Je crois qu'il y en aura pendant longtemps, malheureusement, d'autres images à dévoiler. Et je pense que plus largement, pour le mouvement antispéciste aujourd'hui, le projet, c'est véritablement d'envisager une transition vers une nouvelle société, un vrai projet politique.
Donc vous avez vraiment beaucoup de travail. Un parti politique pourrait naître ?
Alors, vous, comme vous le savez, un parti politique a déjà été créé récemment, qui est le parti animaliste. Alors, L214 est une association apolitique, mais en revanche, je pense que son travail est bien évidemment d'interpeller de plus en plus les politiques et de les encourager à prendre position.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Jean-Baptiste Delamo, L214, une voix pour les animaux, chez Artaud. Évidemment, les revenus de ce livre iront pour la moitié, je crois, à l'association. Et puis Renan Larue avec Valérie Giroux, le véganisme, collection Que sais-je au PUF. Merci à tous les deux.
Merci.
C'est terminé pour cette tête au carré. Demain, nous recevrons Jean-Philippe Uzan pour parler de l'harmonie secrète de l'univers.